Je voudrais vous inviter, frères et sœurs, ce soir à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, et cela au chapitre 13. Alléluia. Que Dieu parle à nos cœurs ce soir. Hein. Nous désirons que Dieu parle à nos cœurs. Qu'il en soit ainsi. Et voilà. Amen à la prière de notre frère. Et je crois que quand on a ce désir que Dieu nous parle, eh bien, Dieu se fait entendre. Alléluia. Alors, Matthieu, chapitre 13, nous allons lire à partir du verset 1er. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Il dit, « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle se leva aussitôt parce qu'elle ne trouvait pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Et une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit avec un rapport de 160 ou 30 pour un. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Verset 18, s'il vous plaît. « Vous donc !» Écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais ou le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche ou il trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les séductions ou les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 160 ou 30 pour un. Je vous invite à ouvrir également sur cette même parabole, Luc chapitre 8. Luc chapitre 8 et le verset 15. Il est dit ceci, « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. » Amen. Un cœur honnête et bon. Je crois, frères et sœurs, que sur cette parabole, on a déjà entendu quelques prédication là-dessus, nous comprenons que les terrains, il s'agit du cœur de l'homme et que la semence, il s'agit de la parole. Et que suivant l'état du terrain ou l'état du cœur, la parole va prendre effet, racine ou pas. Donc nous pouvons en conclure, frères et sœurs, que ce soir, tout dépend de la manière dont nous écoutons cette parole. Si nous l'écoutons avec un cœur honnête et bon, eh bien le résultat sera là. Et c'est ce que le Seigneur désire. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. C'est ce que le Seigneur désire. Alors, je ne pense pas qu'il y ait vraiment un terrain qui soit rocailleux, un terrain qui est dur comme un chemin, un terrain où il y a déjà les ronces et les épines. Je pense qu'on est à peu près tout ça. Il y a toutes ces choses qui sont là dans notre cœur et qui empêchent la parole de Dieu. Et dans le contexte que nous avons lu tout à l'heure de Matthieu chapitre 13, nous comprenons que cette parabole nous parle du cœur du peuple de Dieu et qui fait que lorsque le Seigneur est venu, ils l'ont vu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Ils n'ont pas vu en lui le Messie qu'ils attendaient. Ils ont entendu, mais il y a entendre et entendre. Voyez, on peut commander ce qu'on veut entendre. Voilà. On peut tous entendre la même chose, la même parole, mais la comprendre différemment. Voilà. Tout dépend des circonstances dans lesquelles nous vivons ou dans quel état nous sommes. Et le peuple de Dieu entend toutes ces paraboles, mais ils ne comprennent pas. Ils voient, ils assistent à des miracles qui se passent, et tout cela devait contribuer à amener leur cœur à reconnaître que Jésus est véritablement le Messie. Nous savons qu'il n'en a pas été ainsi. Et je crois que si l'Esprit Saint a pris soin de recueillir ces paraboles, parce que tout ce que le Seigneur a enseigné, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, n'a pas été rapporté. Hein. Voilà, si cela devait être rapporté, je crois que c'est l'apôtre Jean qui disait cela, que le monde ne pourrait pas contenir tous les livres qu'on écrirait par rapport à tout cela. Mais ce qui a été écrit et rapporté l'ont été afin de nous attester que Jésus est le Christ. Alléluia. Donc, ce que nous avons là, c'est largement suffisant pour nous amener à la foi véritable que Dieu veut. Alléluia. Amen. Il nous est donc parlé du chemin. Et ce chemin, nous savons que si... alors, bien sûr, ce n'est pas un chemin bitumé ici. Hein. Voilà. C'est un sentier, c'est en rapport à l'époque d'autrefois. Voilà. Il y a des sentiers dans les champs. Vous voyez? Ce que j'ai remarqué chez moi, c'est qu'il y a des sentiers, même s'ils sont labourés, mais les gens, ils ont l'habitude de passer là, et puis les animaux aussi. Les animaux, lorsqu'ils ont un sentier, on peut labourer, faire tout ce qu'on veut, mais ils ont l'habitude de passer là. Et puis, ils vont continuer à passer. Et du fait qu'ils continuent à passer, il n'y a rien qui va pousser. Voilà. Et on peut ici rapporter plusieurs instructions, mais je vais m'adresser particulièrement à nous qui sommes enfants de Dieu, qui formons le peuple de Dieu, l'Église de Jésus-Christ. Et je voudrais, pour illustrer un petit peu le chemin, nous rapporter à un événement qui s'est passé dans les Écritures. Alors je vais vous inviter à lire avec moi Luc chapitre 24. Verset 13. Et nous est dit ceci. Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » « Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en acte et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour que ces événements se sont produits. Oh, il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des apôtres sont allés au tombeau, ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce que disent les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre des choses, de ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le retinrent avec insistance en disant, « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction ou la bénédiction, ou après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors les yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés et qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Amen. » Voilà. Voilà donc une illustration de ce que peut être un cœur comparé au chemin. Voilà. C'est que on a notre perception, notre vision, notre conception des choses, et quand il ne se passe pas ainsi, on tourne le dos à Jérusalem. On tourne le dos à la présence de Dieu. Et pourtant, il tourne le dos à Jérusalem, et pourtant, à Jérusalem, c'est la résurrection. Des femmes leur ont rendu témoignage que le Christ est vivant. Des anges l'ont attesté. Des témoins l'ont dit. Mais malgré cela, ils n'ont pas cru. Et même quand le Seigneur vient à leur parler, ils sont touchés, mais ils ne le reconnaissent pas. Alors, frères et sœurs, c'est pour dire ceci, qu'il y a une partie importante dans l'homme qui est incrédule à Dieu. Et que nous devons prendre conscience de cela. Parce que nous avons besoin que la lumière de Dieu pénètre pleinement notre cœur, dissipe ces ténèbres d'incrédulité, travaille notre cœur pour disposer notre cœur à accueillir la parole. Parce que c'est une absolue nécessité. Or, nous savons, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Comment pourrions-nous progresser, grandir dans la foi si nous n'avons pas foi dans la parole? C'est impossible. Donc, lorsque nous entendons une prédication ou nous sommes devant une lecture ou quelqu'un qui nous rend témoignage, je pense qu'il y a une chose, une attitude importante, c'est de, même si... Parce que parfois, il y a des vérités qui sont annoncées, mais on n'est pas touché. C'est comme sur les plumes des canards, là. Ça tombe et puis ça dégouline. Oh, ils se sont rafraîchis, ils ont fait du bien. Mais c'est tout. Non, je crois que, frères et sœurs, on se fait du bien dans la présence de Dieu, mais ça ne doit pas rester à l'effet de se faire du bien. Plus que ça, il faut que cette parole s'enracine dans notre cœur. Donc, tout est une affaire de cœur. C'est pour ça que je lisais en préambule tout à l'heure, un cœur honnête et bon. Et le cœur honnête et bon, nous savons, par définition, qu'il n'y a de bon que Dieu seul, c'est Jésus qui l'a affirmé. Et que l'homme, par définition, n'est pas véritablement honnête. Voyez ? On est toujours enclin un petit peu à nous défiler un peu. Voilà. Et que, ceci dit, un cœur honnête et bon, c'est que le Seigneur est passé par là. Il n'y a que le cœur régénéré par l'œuvre de la croix qui peut avoir cette honnêteté et cette bonté. Parce que ça, ce n'est pas l'œuvre de l'homme, c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc, je résumerai pour cette première partie que s'il y a là une difficulté qui nous empêche parce que, c'est vrai, la parole dit ceci, mais moi, ce que je vis, ce que je vois, l'environnement qui est autour de moi, me dit autre chose. Il est bon. Dans ces moments-là, lorsqu'il y a ce questionnement de se tourner vers la parole de Dieu, que dit la parole? Parce que c'est elle qui est la vérité. Le deuxième sol, le terrain dont nous avons parlé, c'est un terrain pierreux. Et dans la définition que nous avons lue tout à l'heure, il nous dit, ça c'est le cœur de quelqu'un d'un moment. Voilà. C'est quelqu'un d'un moment. Mais il manque de stabilité. Ça manque de profondeur. La parole descend. Et il y a une réaction qui répond à cette parole, qui est une réaction positive à la parole, mais ça ne dure qu'un moment. Et puis, ça s'évapore. Et devant la difficulté, eh bien, toute la véracité de cette parole disparaît devant la puissance de l'épreuve. Et cela nous montre une autre réalité, c'est le besoin de profondeur dans notre vie. Alors je vais vous inviter à lire Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, Luc chapitre 6, excusez-moi. Il dit, verset 47, « Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable ou il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé profondément et a posé les fondations sur le roc ou le rocher. Une inondation est venue. Et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était fondée sur le rocher. » Amen. Donc là, je voudrais partager avec vous, c'est-à-dire que l'importance de la mise en pratique de la parole. La parole peut nous faire du bien, alléluia, et on est gonflé à bloc, mais au moment de l'épreuve, on dégonfle complètement et on a l'impression que tout ce qu'on a appris a totalement disparu. C'est pour cela que il y a une chose importante en ce qui concerne la parole, c'est la mise en pratique. Lorsque j'entends la parole et que je constate que cette parole n'est pas une vérité, une réalité dans ma vie, il est important de se tenir devant Dieu et de dire un cœur honnête et bon, Seigneur, c'est une vérité, mais cette vérité, elle ne l'est pas encore dans ma vie. Or, tu m'invites à mettre en pratique ta parole. Je veux la mettre en pratique. Mais j'ai des difficultés à mettre en pratique cette parole. J'ai donc besoin, Seigneur, que tu m'aides à vivre cette parole. Parce que notre Seigneur a marché avant nous sur le chemin de l'obéissance, jusqu'à la mort même de la croix. Par conséquent, il peut nous aider parfaitement dans nos faiblesses. Alléluia. Voilà. Mais vous conviendrez que bien souvent, lorsqu'on est face à une vérité de la parole et qu'elle nous interpelle et qu'elle touche notre cœur, il y a parfois une réaction de rejet et de protection. Oui, mais si j'aimais ça, il va y avoir ça. Sauf que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. L'obéissance, c'est ce qui plaît à Dieu. La soumission à la parole, c'est ce qui plaît à Dieu. Et ce n'est pas... Comment ? Ce n'est pas un état de fait. C'est une démarche, c'est une progression. Je dois progresser dans cette démarche d'obéissance à la parole. Je crois, frères et sœurs, que même les plus grands prédicateurs, au travers desquels Dieu agit avec force et avec puissance chaque jour, il cherche à obéir à la parole. Parce que la désobéissance et la résistance, c'est la porte ouverte à l'ennemi. Et je vous invite à lire la parabole des quatre terrains dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Marc et dans l'évangile de Luc. Vous verrez que dans les trois évangiles, il nous est parlé de la présence de l'ennemi sur le terrain. Dans l'un, il est nommé le malin. Dans l'autre, il est nommé Satan ou l'adversaire. Et dans l'autre, il est nommé le diable. Donc il y a une forte activité de l'ennemi dans le cœur de celui qui résiste à Dieu. Et il va toujours nous amener vers la résistance et le rejet de la parole. Voilà pourquoi il n'y a que le cœur régénéré par l'œuvre de la croix qui peut accueillir véritablement la parole. Et lorsqu'on est en difficulté dans l'obéissance à la parole, il faut revenir à la croix. Il n'y a qu'un seul chemin, en fait. Il n'y a pas 36. Parce que c'est à la croix que nous avons la victoire. Parce que cette victoire, elle nous est acquise. Vous voyez? C'est-à-dire que... Je mesurerai quand même ce que je dis, parce que... C'est comme si nous n'avons pas à lutter, parce que cette victoire, elle est déjà remportée. Mais on a à se l'approprier. Nous inscrire dans la victoire. C'est-à-dire, ne plus douter de cette victoire. Oui, je vis ceci, mais la victoire de la croix, c'est celle-là. Elle a remporté la victoire sur cette situation que je vis. Donc, je dois me tourner vers la victoire. Même si je suis dans la difficulté la plus difficile, mais je dois rechercher la croix parce que c'est là que la victoire de mon Seigneur a été remportée pour moi, une fois pour toutes. Mais moi, j'ai besoin chaque jour dans ma vie que cette victoire devienne réalité et que cette victoire soit installée durablement. Pas un coup je suis victorieux, alléluia, et puis un coup je suis en bas dans les profondeurs. Ça, ce sont des signes d'instabilité et l'ennemi, il aime bien ça. Les épines, je voudrais vous... Les épines donc, nous parlent de l'attrait du monde. Voilà. Ça veut dire que le monde, il appelle. Vous voyez, la Bible nous dit que quand Dieu il a parlé à Caïn, il lui a dit, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Voilà. Et ses désirs se portent vers toi pour. Mais toi, domine sur lui. Voilà. Nous savons que le Seigneur, il a déjà tout accompli à la croix. Il a détruit le pouvoir et l'autorité du péché une fois pour toutes. Voilà. Donc, dans des situations de. Dans lesquels nous sommes confrontés à la séduction, à l'attrait, nous devons revenir à la croix. Même s'il faut s'y reprendre à plusieurs fois, mais il faut partir de la croix avec la paix de Dieu. 2 Timothée chapitre 4, s'il vous plaît. Je vous parle de ce témoignage de qui nous est rapporté par l'apôtre Paul dans la lettre à Timothée, 2 Timothée chapitre 4. Donc dans cette lettre, écrite à son fils spirituel, Paul dit ceci au verset 9, « Tâche de me rejoindre au plus vite. Car Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent et il est parti pour Thessalonique. » Voilà donc un homme, un frère, serviteur de Dieu, collaborateur de Paul. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais la parole nous dit que par amour pour le siècle présent, il a abandonné le service de Dieu et il a abandonné son collègue. Mais comment cela se fait-il? Il y a forcément eu une porte ouverte qui a laisser l'aspiration du monde, les séductions du monde, les attraits du monde, toucher le cœur de l'enfant de Dieu et l'ébranler sur ses fondements au point où il a quitté le service, l'église, le ministère qui lui est confié. Et cela doit nous interpeller. Parce que s'il y a une once d'attrait en ce qui concerne les choses du monde, l'ennemi peut-être mettra des années, mais il va l'utiliser pour qu'à un moment favorable, nous soyons détournés de la volonté de Dieu. Alors, je voudrais nous encourager ensemble, ce soir, à être déterminés à ne pas nous laisser envahir par les attraits du monde, la séduction des choses. Alors, ceci ne veut pas dire qu'il faut condamner les riches. Hein? Pas du tout. Qu'il faut rejeter tout ce qui est voiture, maison, travail, tout ça, et puis aller nous cloîtrer quelque part. Non, pas du tout. Mais c'est l'importance que cela a dans notre cœur. Vous voyez? Au point que ça devient, ça vient triompher. Notre frère a fait la lecture tout à l'heure. On est esclave de ce qui triomphe de nous. Autrefois, nous avions été esclaves du péché et condamnés pour l'éternité. Mais maintenant, nous avons décidé de nous séparer de ces choses. Nous sommes passés par la croix. Nous sommes devenus ce terrain que le Seigneur a balayé, enlevé tous les obstacles. Nous sommes devenus ce terrain de prédilection pour Dieu, pour agir. Ne laissons donc pas à nouveau les choses prendre de la place dans notre cœur. Et cet homme, je ne sais pas ce qui a fait que, mais en tout cas, Paul le cite ici, qu'il a abandonné par amour pour le siècle présent. Donc c'est un danger qui nous guette. Nous vous devons donc veiller sur notre cœur plus que toute autre chose. Car c'est du cœur de l'homme que viennent aussi bien les bonnes choses, en raison de l'abondance de ces bonnes choses, que des mauvaises choses, en raison de l'abondance de ce qu'il y a de mauvais. Voilà. Il y a quelque temps de cela, je ne sais pas comment, mais une petite souris est morte dans notre chambre, mais je ne sais pas où ça. On a commencé à sentir que ça sent mauvais. Alors, premier jour, un petit peu, et puis au fil des jours, j'ai été obligé, mon épouse n'était pas là, j'ai été obligé d'abandonner la chambre, de déserter la chambre. Vous voyez? Voilà. Une petite souris. Vous voyez? Ben, c'est pour dire, frère et soeur, on laisse traîner quelque chose. Et il va nous finir par nous faire déserter la présence de Dieu. Voilà. Que le Seigneur nous aide. Aimons la vérité, frères et sœurs. Même si la vérité est un peu dure, là c'est du mal à passer, mais c'est la vérité. Le Seigneur dira un jour aux disciples, celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang, n'a pas la vie. Et les disciples ont dit, ces paroles sont dures. Qui peut l'entendre? Vous voyez? Voilà, il y a des paroles qui sont parfois dures, si bien qu'il y en a qui ont abandonné. Et ils n'allèrent plus. Et le Seigneur a dit à ses disciples, et vous, vous ne voulez pas vous en aller aussi? Pierre répondra, Seigneur, à quel autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Et nous, nous avons connu que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Eh bien, que Dieu fortifie notre cœur. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais je voudrais, frères et sœurs, nous inviter à lire dans le livre des Actes. Actes chapitre 16, il nous est rapporté ici un témoignage. Actes chapitre 16 et le verset 11. Actes 16, 11. Après avoir embarqué à Troas, nous avons fait voile directement vers la Samothrace et le lendemain vers Néapolis. De là, nous sommes allés à Philippe, qui est la première ville du district de Macédoine et une colonie. Nous avons passé quelques jours dans la ville même. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus à l'extérieur de la ville au bord d'une rivière où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et avons parlé aux femmes qui étaient réunies. Verset 14. L'une d'elles s'appelait Lydie. C'était une marchande de pourpre originaire de la ville de Thyatire qui craignait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Après avoir été baptisée avec sa famille, elle nous a invités en disant, « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et logez-y. » Et elle a fortement insisté pour que nous acceptions. Amen. Voilà. Et il nous est rapporté ici que le Seigneur a ouvert le cœur de cette femme. Quoi donc? Y aurait-il des préférences qui font que le Seigneur il a ouvert le cœur de cette femme mais pas aux autres. Mais quand on regarde, il dit que Lydie était une femme qui craignait Dieu. Alléluia. Donc quand on a cette crainte respectueuse de Dieu dans notre vie, cela contribue à ce que Dieu ouvre notre cœur. Alléluia. Voilà. On n'a pas tout compris, mais quand on a la crainte de Dieu dans notre cœur, cet état de cœur, cette disposition de cœur, eh bien, est favorable pour que Dieu ouvre notre cœur. Je vais vous inviter également à lire Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, je lirai juste un verset parce qu'on ne va pas lire tout le passage, mais voilà, c'est après donc l'histoire des disciples d'Emmaüs. Une fois que les disciples de Maïs ont rendu compte de ce qui s'est passé, le Seigneur est apparu de nouveau au milieu d'eux. Et verset 44, il dit, « Puis il leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. » Alléluia. Sommes-nous disciples de Christ? Oui, nous sommes disciples de Christ. Donc, nous pouvons demander à juste titre, Seigneur, j'ai besoin que tu m'ouvres l'intelligence, pour que, non seulement pour que je comprenne ta parole, mais pour que cette parole soit réalité dans ma vie.